BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevrillon.
Notre invitée, effectivement, c'est une invitée exceptionnelle, Esther Duflot, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On dit exceptionnel, je sais que ça ne correspond pas du tout en plus à votre personnalité, mais vous êtes prix Nobel d'économie. Vous l'avez reçu ce prix, c'était en 2019, aux côtés de votre mari, l'économiste indien Abhijit Banerjee. C'est vrai que vous êtes la seule Française aujourd'hui en vie qui ait reçu ce prix de Nobel d'économie. Et puis en plus, désormais, vous avez prononcé votre leçon inaugurale jeudi 24 novembre, donc il y a juste quelques jours, au Collège de France, puisque vous êtes titulaire de la chaire pauvreté et politique publique. Et là aussi, c'est un peu une grande première, parce qu'il y a deux économistes qui sont titulaires d'une chaire au Collège de France. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, non ? L'autre économiste étant évidemment Philippe Aguillon, qu'on connaît bien.
Oui, je crois que c'est la première fois, mais ça montre l'ouverture du collège sur les problèmes de société qui, évidemment, sont très importants.
Esther Duflot, vous êtes professeure au MIT à Boston. C'est là où vous avez un laboratoire, du reste. On verra un peu plus tard, parce que vous avez établi une méthode pour lutter contre la pauvreté, mais une méthode qui n'est pas sur des grands principes, sur des chiffres, des modèles. C'est quelque chose de très pragmatique. Vous dites vous-même, je vous cite, c'est une politique de petits pas. C'est-à-dire que vous prenez des situations que ensuite vous essayez peut-être de répliquer, mais vous travaillez vraiment sur des cas pratiques. On verra si c'est suffisant et nécessaire dans un instant. Peut-être deux, trois petites questions d'actualité. D'abord, puisque vous travaillez beaucoup sur les pays émergents, est-ce que vous redoutez aujourd'hui qu'il y ait une crise de la dette des pays émergents avec l'inflation ? Les taux d'intérêt, les banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt. Est-ce que pour vous, c'est une menace, une épée de Damoclès sur les pays émergents ?
Malheureusement, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y en a déjà eu une très grosse au Sri Lanka. Le Sri Lanka a tout d'un coup été incapable de faire face au remboursement de sa dette vis-à-vis de la Chine, et la Chine et le FMI ont été, pour l'instant, ne sont pas capables de négocier sur quoi faire de la dette du Sri Lanka. Plus généralement, le Sri Lanka c'était dû vraiment aux pertes de recettes du tourisme à cause du Covid, mais plus généralement il y a la remontée des taux d'intérêt et aussi le fait que le dollar monte, parce que les taux d'intérêt américains augmentent de plus en plus, ça fait monter le dollar vis-à-vis de toutes les autres devises, et donc forcément rend le service de la dette beaucoup plus difficile pour les pays émergents. Donc on peut s'attendre à au moins une régression de l'économie mondiale, en particulier dans les pays pauvres, qui pourrait être potentiellement aiguë.
Est-ce que vous considérez que cette politique monétaire, qui est conduite notamment par la Fed, mais aussi évidemment par d'autres banques centrales et la Banque Centrale Européenne, est-ce que vous estimez que c'est un peu une erreur, ou c'est une forme de protectionnisme monétaire ?
Le mandat de la Fed, comme le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est d'arbitrer le chômage et l'inflation sur leur territoire. Oui. Donc les États-Unis, la Fed arbitre le chômage et l'inflation aux États-Unis, sans se préoccuper du reste du monde. C'est pas vraiment leur sujet, pour être honnête. Donc je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit du protectionnisme dans le sens où c'est pas volontaire nécessairement les conséquences, mais en même temps ils s'en préoccupent pas particulièrement.
Oui, ils ne s'en préoccupent pas. Ben c'est une erreur, c'était ça plutôt ma question. On connaît bien les statuts, évidemment, mais est-ce que vous considérez que ça pourrait rentrer, en tous les cas, dans leur champ ?
Malheureusement, on a vu aussi pendant la crise du Covid que la capacité des pays les plus riches à se préoccuper du sort des pays les plus pauvres est relativement limitée.
Oui, alors, justement, on est pauvre, pour Esther Duflot, quand on habite dans des pays émergents, où on est pauvre aussi, reconnu comme tel, quand on est en France et qu'on est en dessous du seuil de pauvreté. Quand on est en Allemagne, on a vu que les statistiques montrent que le niveau de pauvreté a augmenté très fortement en Allemagne, ou quand on est en Ukraine, ou alors il faut être dans des pays émergents.
Bon, il y a deux définitions, en fait. Il y a une définition de pauvreté absolue. Aujourd'hui, c'est de vivre avec moins de 2 euros par jour et par personne. Et ça, on trouve cette grande pauvreté essentiellement dans des pays qui sont déjà pauvres. Et c'est même les pauvres des pays pauvres qui vivent dans cette pauvreté. C'est à peu près aujourd'hui 8% de la population mondiale. Qu'on trouve surtout en Afrique, en Inde, en Amérique latine. Après, il y a aussi des gens qui sont pauvres dans les pays riches. C'est une pauvreté qui est différente. Elle est moins absolue dans le sens où le seuil de pauvreté sont bien entendu beaucoup plus élevés. Mais c'est de la pauvreté quand même, bien entendu, parce que de la même façon qu'une personne pauvre dans les pays pauvres n'arrive pas à donner à ses enfants l'éducation, la nutrition, la santé qu'il voudrait, quelqu'un dans une famille pauvre ici en France n'arrive pas à donner à ses enfants ou à lui-même les rêves qu'il voudrait réaliser. Donc c'est deux définitions de pauvreté qui coexistent et qui ne sont pas tout à fait le même phénomène mais qui sont reliées.
Deux questions par rapport à ça. C'est un, vous avez dit, vous avez été interrogé sur l'État-providence, le fait d'avoir des aides. Est-ce que si on donne, c'est un peu tout le débat autour de la réforme de l'assurance chômage, pardon de vous ramener en France. Le gouvernement dit, mais c'est parce que, en fait, il y a une durée d'indemnisation qui est trop longue, donc il faut la raccourcir. Et vous avez dit, non, en fait, c'est une erreur de penser que en arrêtant des gens, ça va les inciter à travailler. C'est le contraire. Est-ce que vous pouvez expliciter peut-être pourquoi vous dites ça ?
Souvent, on pense que plus les allocations, que ce soit les minima sociaux ou l'assurance chômage est généreuse, plus les gens vont vouloir rester chez eux, parce que finalement, ils n'auront pas tellement besoin de travailler, puisqu'ils ont de quoi survivre chez eux. C'est une croyance qui est extrêmement répandue, c'est pas du tout spécialement français, on la trouve aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'en Inde, partout, et toute notre protection sociale est un peu inspirée par cette peur de rendre les pauvres paresseux. Or, il se trouve, dans toutes les études empiriques qui ont pu être menées, que ces effets d'incitation sont extraordinairement faibles ou inexistants et parfois même vont dans l'autre sens. C'est justement d'avoir la sécurité, d'avoir un petit coussin financier, par exemple, qui permet aux gens de se projeter dans un avenir plus positif, de trouver un emploi qui leur convienne mieux ou de travailler plus dur parce qu'ils savent que ils peuvent prendre des risques, par exemple, et que si quelque chose ne va pas, ils sont protégés.
Oui. Donc ça, c'est pour vous, c'est une erreur. Vous l'avez pas expliqué. Vous avez été reçu par Emmanuel Macron, Bruno Le Maire. Ils étaient là pour votre leçon inaugurale.
Ils n'étaient pas là pour ma leçon inaugurale. Ça m'est arrivé de les rencontrer, mais plutôt pour leur parler de sujets de pays en développement.
Oui, de pays de pauvreté. Alors, est-ce que cette vous dites que la situation des pauvres s'est améliorée ou quand, comment, j'ai envie de dire. Pourquoi vous dites ça, là, encore une fois ?
Parce qu'elle s'est améliorée considérablement depuis à peu près 1990. Donc le nombre de gens vivant avec moins de 2 dollars par jour et par personne a été divisé par 2. De même, la mortalité infantile, la mortalité maternelle ont été divisées par 2. Il y a eu 540 millions de cas de paludisme en moins. Enfin, tous les enfants vont aujourd'hui à l'école, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc en fait, si on regarde la situation des plus pauvres du monde, c'est jusqu'à la crise du Covid, qui a été évidemment un tremblement de terre, une situation qui n'allait qu'en s'améliorant. Alors que le reste du monde, les pauvres des pays riches, les classes moyennes des pays riches, et en fait tout le monde jusqu'aux vraiment les plus riches, se sont trouvés de plus en plus comprimés et leur niveau de vie n'a pas augmenté depuis des décennies maintenant. En fait, dans les pays pauvres, la situation des plus pauvres s'est améliorée.
Ouais. Donc, est-ce que c'est quelque part dans vos travaux, c'est quand même un plaidoyer pour la mondialisation ? Parce que la mondialisation, beaucoup vous expliquent que c'est ce qui a permis justement à des très pauvres de devenir un petit peu moins pauvres. Ça a permis l'émergence dans des pays comme la Chine ou l'Inde, que vous connaissez bien, d'avoir des classes moyennes aussi qui ont émergé. Or, aujourd'hui, on remet en cause, pour des raisons climatiques, on en dira un mot, bien sûr, on remet en cause un peu cette mondialisation. Est-ce que pour vous, cette démondialisation, cette régionalisation, est-ce que ça vous inquiète par rapport à votre sujet, par rapport aux pauvres sur lesquels vous travaillez ?
Je pense que c'est un peu un raccourci de dire que c'est la mondialisation qui a permis la réduction de la pauvreté.
Oui, non, mais oui.
D'abord parce qu'il y a de la réduction de la pauvreté dans plein d'endroits. Dans plein de pays, par exemple, le pays qui a le plus réduit la pauvreté en termes de points de pourcentage depuis 1990, c'est la Tanzanie. Donc c'est pas beaucoup de pauvres, parce que la Tanzanie n'est pas un très grand pays, mais la pauvreté a énormément diminué en termes de points de pourcentage.
Oui, c'est le tourisme.
Sans passage vraiment par la globalisation. Ouais. C'est vrai que la Chine a grandi, mais beaucoup de gens sont passés sous le seuil de la pauvreté en Chine et en Inde, mais aussi dans d'autres pays qui n'ont pas vraiment connu la globalisation. Et dans les pays pauvres, comme dans les pays riches, la globalisation s'est traduite par une augmentation des inégalités. Mmh. Donc on a eu à la fois une augmentation du niveau de vie moyen et une augmentation des inégalités, ce qui fait que finalement les gains en termes de pauvreté n'ont pas été aussi grands qu'ils n'auraient pu être si ces augmentations d'inégalités n'avaient pas eu lieu. Donc la globalisation a joué un rôle dans l'émergence de la Chine et de l'Inde, il n'y a pas de doute, mais n'est pas la seule responsable du fait qu'il y a moins de pauvres aujourd'hui et que leur vie s'est améliorée. Il y a aussi une forme de pragmatisme dans les pays les plus pauvres, de concentration sur le bien-être de leur population, qui a eu des effets tangibles, comme par exemple la réduction de la mortalité dont je parlais.
Oui, parce que vous avez dit, alors moi quand je dis, je vous cite en fait, c'est ce que les propos que vous avez tenus dans votre leçon inaugurale, hein, c'est pour ça que je dis, vous avez dit que, vous avez dit que la situation donc, des pauvres s'est améliorée grâce à un plus grand pragmatisme des politiques économiques. C'est sûr que nous, on ne le perçoit pas forcément. Donc, pour vous, c'est une réalité. Il y a du pragmatisme dans les politiques économiques qui ont été conduites par des gouvernements.
Des pays du Sud. Oui. Une très forte augmentation de ce pragmatisme.
On va rentrer un peu dans le détail, si vous le voulez bien.
Exemple, Malawi. C'est un des pays où la mortalité maternelle a réduit considérablement, alors qu'il y a eu très très peu de croissance économique, grâce à simplement un accent porté sur ce problème et un effort de mettre en œuvre des politiques efficaces qui avaient été prouvées être efficaces dans d'autres endroits.
Vous travaillez, on va parler là maintenant de vos travaux, après j'ai plein d'autres questions, puis on va parler surtout d'éducation économique, parce que vous avez écrit plusieurs livres pour des enfants, et c'est absolument formidable, surtout au moment où tout le monde se pose des questions des cadeaux de Noël. Alors là, on va en parler, c'est très bien. Avec votre mari, vous avez donc un laboratoire au MIT où vous travaillez sur c'est la méthode de cas par cas. Comment est-ce que vous sélectionnez? Expliquez-nous, donnez-nous des exemples.
On sélectionne souvent parce qu'il y a une demande d'évaluation de la part de nos partenaires. Donc, par exemple, le gouvernement d'un grand État de l'Inde, l'Haryana, nous demande de travailler avec eux pour savoir comment augmenter la demande des parents pour la vaccination des enfants. Donc, c'est une question très précise. Les campagnes de vaccination sont en place, les centres sont en place, mais la demande ne suit pas. Donc, ils se demandent comment augmenter la demande pour la vaccination. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de travailler avec eux sur des solutions qui ont été testées dans d'autres endroits, très précises, et de mettre en œuvre dans leur territoire un test à grande échelle, l'équivalent d'un essai clinique pour savoir si un vaccin marche. Cette fois, on peut mettre en œuvre cet essai clinique pour savoir comment faire en sorte que les gens vaccinent effectivement leurs enfants.
Oui, j'ai vu ça aussi sur le raccordement à Veolia.
Voilà
des choses. Donc ça c'est en Afrique, je crois.
C'est au Maroc.
Au Maroc,
en Afrique du Nord.
Oui, en Afrique du Nord. Oui.
Où là, le gouvernement de la ville de Tanger voulait que les plus pauvres puissent avoir accès à l'eau courante chez eux. Veolia s'était engagé à le faire, avait fait tous les travaux nécessaires pour le faire et avait mis en place des prêts pour les gens, pour qu'ils puissent accéder. Et il n'y avait pas de demande. Donc ils se demandaient, mais comment ça se fait que personne ne vienne? Et là, à nouveau, problème très concret. Donc nous sommes allés au-devant des gens, nous sommes allés leur parler pour voir comment ça se fait qu'ils prennent pas avantage de cette opportunité.
Des groupes différents du reste, oui.
Alors d'abord, on voit qu'est-ce que peut être le problème. Là, il nous est semblé que c'était la complexité de la procédure. Ouais. De manière inadvertante, on demandait trop de papiers, il fallait faire trop d'allers-retours, etc. Et donc on a proposé d'essayer d'aller chez les gens pour faire les inscriptions chez les gens. Et ensuite, pour savoir si ça marche, là, on fait des groupes. Comme pour un essai clinique, on choisit au hasard la moitié des gens, on leur propose ce nouveau programme, et puis l'autre reste groupe témoin pendant une période de temps. Là, on est passé d'une demande de 10% d'inscrits à 60% d'inscrits. Donc après, quelques mois, évidemment, le programme est généralisé à tout le monde, puisqu'il est efficace.
Mais est-ce que, je disais, cette petite, de petite part, est-ce que c'est suffisant à l'aune de, du niveau de pauvreté sur la planète ? Vous voyez ce que je veux dire ? On peut se demander, est-ce que ce n'est pas quand même des actions, certes formidables, mais qui restent limitées ?
Ben aujourd'hui, si vous prenez mon laboratoire et l'ensemble de mon laboratoire, et que vous considérez les gens qui ont été touchés par l'expansion des politiques qui ont été démontrées efficaces, c'est 540 millions de gens.
Oui.
Donc 540 millions de gens, c'est quand même beaucoup.
Oui,
donc petit pas par petit pas, on finit par faire une différence sur des problèmes concrets. C'est une partie de leur vie, c'est pas toute leur vie. Mais il y a des choses très importantes, comme par exemple la réduction du paludisme dont je parlais, est en partie due à la distribution massive de moustiquaires imprégnés qui n'a pu avoir lieu que parce qu'on a prouvé que les gens les utiliseraient bien grâce à ces essais cliniques.
Oui.
Et la réduction du paludisme, ben ça fait la différence entre la mort et la vie pour des enfants.
Quand vous voyez que l'Inde maintenant a dépassé en termes de PIB la Grande-Bretagne, c'est quand même un séisme dans l'Organisation des Nations, j'ai envie de dire. Ça vous inspire quoi ?
Bah, pour être honnête, c'est quand même un pays qui est beaucoup plus grand. Donc, en termes de PIB par tête,
la Russie a un PIB à peu près la taille de la Hollande. Donc, si vous voulez, enfin, des Pays-Bas. Donc,
L'Inde a connu une croissance rapide depuis en fait les années 80.
C'est la résorption de la pauvreté en Inde. Vous diriez ça, c'est. C'est quoi ?
Qui a été à la cause de cette... En fait, l'Inde a été à sous-potentiel jusqu'à la fin des années 80, mm-hmm. À cause en particulier d'un carcan de régulation mal mis en place. Et ce qui a été... Et il y a eu le gouvernement du Congrès à l'époque a libéré l'économie indienne, ce qui a permis l'essor, par exemple, des logiciels, puis dans la foulée, la progression de l'éducation, la progression de la santé, qui finalement a amené cette
croissance. Oui, et peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, la crise de la Covid a fait que, comme, et notamment ce qui se passe en Chine, du coup, beaucoup d'entreprises, beaucoup de business se reportent sur l'Inde. Ça, c'est aussi peut-être un point intéressant. Deux questions. Après, on va parler des livres. Les économistes, ils n'ont rien vu de ce qui se passe, des conséquences notamment de cette guerre, de l'inflation, de l'explosion des prix de l'énergie, etc. Quand vous dites que l'économiste est un plombier qualifié, là, on a l'impression qu'ils ont un peu oublié leurs outils, non ? Il y a une remise en cause des économistes, un peu ?
Il y a une remise en cause qui est ancienne. Hein, oui. Un sondage de 2018 au Royaume-Uni qui montrait que les économistes étaient second après les hommes politiques pour ceux à qui on faisait le moins confiance sur leur domaine d'expertise.
Et les médias sont à peu près dans le même niveau. Donc.
La raison, justement, c'est qu'on demande aux économistes, ou on attend des économistes qui puissent prédire le futur, et en fait, ils sont très très mauvais à le faire parce que c'est difficile. Et donc, je ne dis pas que les économistes sont des plombiers, je dis que les économistes devraient davantage faire de la plomberie, parce que justement quand on se dit bon, arrêtons d'essayer de prévoir l'avenir, on n'a pas vraiment de boule de cristal. Par contre, on a une expertise sur certains sujets qui peut nous aider à réfléchir avec les personnes qui mettent en œuvre les programmes à quel est le bon programme, comment résoudre des problèmes, et ensuite surtout à les évaluer pour voir si c'est efficace ou pas.
Esther Duflo, vous êtes restée pour nous, donc merci beaucoup, parce que vous repartez aux États-Unis, mais vous êtes aussi restée parce que demain s'ouvre le 38e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, et vous avez écrit des livres illustrés par Cheyenne Olivier, qui sont assez formidables sur l'enseignement de l'économie. C'est quoi l'économie aux enfants ? Alors, on peut les voir, pour ceux qui nous regardent à la télévision, sinon il faut aller vraiment regarder sur le podcast de BFM Business, parce que c'est vraiment c'est des petites histoires qui sont très charmantes. À moi, il y en a une, celle de Nilou, finit l'école buissonnière. Ouais, mais il y a une méchante maîtresse qui n'apprend rien, donc Nilou, elle fait l'école buissonnière, puis finalement, ce sont ses aînés qui lui apprennent qu'on peut, on peut travailler, etc. Vous estimez que l'enseignement, il est mal fait en France et puis ailleurs, et notamment l'enseignement de l'économie ?
Alors, sans dire, je m'excuse de trahir la fin de l'histoire, mais quand même, à la fin de l'histoire, on se rend compte, c'est moi qui vais le faire avec mes excuses, à la fin de l'histoire, on se rend compte que la maîtresse elle-même n'enseigne pas bien parce qu'elle est, elle est pas,
ils savent pas calculer.
On ne lui donne pas les outils pour le faire. Ouais. Et le problème qu'on trouve dans beaucoup de pays en développement, et dans une certaine mesure en France, c'est que les programmes scolaires sont inadaptés au public et que la pauvre maîtresse, son seul travail, c'est de finir le programme, même si les enfants n'arrivent pas à suivre. Mmh. Donc le programme avec les aînés qui aident, c'est un programme qui est mis en œuvre par une ONG qui s'appelle Pratam, maintenant qui touche 30 millions d'enfants à travers le monde, qui travaille en collaboration avec les enseignants dans les écoles pour remettre les élèves à niveau et permettre en fait aux enseignants de faire ce qu'ils voudraient faire. Donc la maîtresse qui commence par faire peur, on se rend compte de sa vulnérabilité à la fin, et après ça devient un personnage tout à fait positif dans le reste des histoires.
Ah, ouf. Qui saura la guérir ? Ça c'est Afia. Après il n'y a même pas peur de la grande ville, il y a en avant les élections. Comment vous avez sélectionné les thèmes ? C'est votre fils qui vous a dit « Maman, il faut que tu fasses ça ».
Non, ça suit d'assez près « Repenser la pauvreté », mon ouvrage à destination des adultes qui est paru au Seuil il y a maintenant 10 ans.
Déjà
10 ans. Et qui prenait qui sont les thèmes en fait essentiels de la vie de tous les jours, que ce soit dans les pays pauvres ou les pays riches, la santé, l'éducation, la politique, le marché du travail, qu'on voulait pouvoir aborder avec les enfants de la manière la plus ludique et ouverte possible.
Et c'est publié bien sûr au Seuil Jeunesse, donc ça fait un très beau cadeau en tous les cas à offrir à ses enfants. Pourquoi est-ce que vous êtes en France? Vous repartez, vous êtes venu parce que, ça y est, maintenant, vous avez une chaire au Collège de France, donc vous allez faire des allers-retours. Mais pourquoi votre laboratoire, il était aux États-Unis? Parce que là-bas, c'est plus facile de récolter de l'argent, la place, elle est plus grande pour la recherche.
Le laboratoire est en fait mondial. Hein. C'est un réseau de laboratoires, y compris un laboratoire
MIT,
au MIT, mais aussi à Paris, à Paris School of Economics, boulevard Jourdan, où nous avons une équipe qui traite de problèmes de pauvreté en Europe. J'ai pas l'Europe. Donc en fait, c'est un laboratoire mondial. Les financements, ils viennent de partout. C'est vrai qu'ils viennent beaucoup des États-Unis, financement public privé, mais aussi de l'Europe, de différents gouvernements. Beaucoup de ce qu'on fait en Inde est financé par le gouvernement indien. Le gouvernement espagnol vient de lancer un très gros programme d'évaluation. Donc c'est pas vrai que c'est uniquement américain, c'est maintenant mondialisé.
C'est maintenant.
Oui, ça, là, il y a eu une montée. Maintenant, on a 20 ans. J'ai pas le laboratoire va fêter ses 20 ans cette année. Depuis 20 ans, il y a eu une forte montée en puissance en partant d'une petite expérimentation, oui. C'est vrai, des États-Unis qui s'est maintenant développée dans le monde entier.
Votre prix Nobel, quand même, évidemment. Est-ce que peut-être, ça sera le mot de conclusion, la question de conclusion, c'est qu'il faut que l'économie s'intéresse, penche plus sur le social. C'est ce que vous avez réussi à faire, c'est ce que vous avez fait. Mais donc, vous étiez un peu, ça vous a presque un peu marginalisé, entre guillemets, par rapport au mainstream. C'est ça qui manque à l'économie aujourd'hui, à l'enseignement de l'économie ou à la recherche économique.
La recherche économique est en fait très diverse, beaucoup plus diverse que l'enseignement et beaucoup plus diverse que ce qu'on peut voir de l'économie dans les médias, par exemple. La recherche, elle porte aussi sur des sujets sociaux, sur le climat, sur les discriminations, sur le travail, sur la politique sociale. Une des raisons pour lesquelles j'écris pour le grand public, que ce soit les enfants ou les adultes, c'est aussi pour traduire un peu cette diversification de la recherche en train de se faire. Ça, à nouveau, c'est un mouvement, mais c'est un mouvement qui est bien amorcé maintenant.
Votre prochain livre, c'est pour quand ? Le vôtre ?
Donc, il va y avoir déjà 5 autres livres en septembre prochain dans la collection, qui
formidable.
Complétera le cycle Nilou.
Ouais.
Et qui après nous libérera pour un prochain projet. Soit pour les adultes, soit pour les enfants. Pas encore déterminé, parce qu'il faut déjà finir Nilou.
À suivre. Merci beaucoup d'être venu ici nous voir dans les studios de BFM Business. Merci beaucoup Esther Duflo. Et puis on vous retrouvera pour la prochaine leçon inaugurale. Pas inaugurale, leçon tout court au Collège de France.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Évidemment, vous pouvez la trouver sur le site de BFM en replay, en podcast. Et puis tout de suite, Tech & Co, François Sorel. Bonne soirée.
Good Evening Business, la grande interview.